Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, l'émission qui vous accompagne dans l'apocalypse à venir.
Oui, l'apocalypse, hein, c'est du palpable, c'est du concret, ce n'est pas des prévisions futuristes. On est dedans!
On est dedans. Fréquence d'Outre-Tombe, on vous raconte des histoires effrayantes et des témoignages paranormaux. Vous êtes accompagné pour la prochaine demi-heure de David Rocket Ship et...
de Patrick Anctil et de...
Ève Nocturne.
Oh, nous avons une invitée mystère. On va expliquer aux auditeurs et auditrices. C'est parce que malheureusement, on n'est pas dans le studio de CKRL. On s'en ennuie beaucoup, mais on ne peut pas y être. Donc, on est en direct de nos appartements. Et voilà, on a signé un contrat d'à peu près quoi? 50 émissions, David?
Exact, on a un contrat de plusieurs millions et qui comporte 50 émissions.
On a fait les trois premières en studio, à peu près. Trois, quatre premières. Et puis là, on se ramasse à enregistrer de nos maisons, mais on souhaite ardemment revenir dans le studio d'ici la fin des temps.
Au moins, la technologie nous aide et les ondes d'Outre-Tombe nous permettent de se communiquer entre nous quand même.
Oui, les ondes d'Outre-Tombe, on va en parler ce soir, David.
Oui, hein, parce que ton histoire parle de Fréquence d'Outre-Tombe, ça, j'ai vraiment hâte d'entendre ça.
Oui, l'histoire parle de deux gars qui animent une émission à la radio communautaire de CKRL et ça va prendre des proportions disproportionnées. Ça va occasionner toutes sortes d'affaires lugubres dans la ville de Québec et on va explorer ça. Et de ton côté, je crois qu'on va ouvrir les micros, du moins on va offrir une tribune encore une fois ce soir à l'émission.
Oui, mais si vous vous rappelez, au mois de novembre, on avait eu une histoire du vampire de Limoilou qui venait d'un de nos auditeurs. Ben, pas longtemps après, il nous avait réécrit une autre histoire. Je parle d'Alexandre Gagnon-Guérin. Salut Alexandre et merci pour les histoires que tu nous envoies.
Oui, merci. Et,
bref, c'est ça, cette histoire-là était dans notre pile depuis un petit bout de temps, puis on avait toujours d'autres... truc, mais ce soir, on vous la lit. C'est vraiment cool. C'est l'histoire d'un jeune homme au secondaire qui se sent un peu tout seul. Puis il va trouver une façon paranormale de se trouver des amis.
Puis si ton histoire est assez bonne, si elle lève assez, peut-être, qui sait, peut-être que tu vas avoir une tête de mort. On sait pas. Je dis ça de même. On verra.
Ah, on verra. Verra-t-on. Puis j'ai envie de vous parler d'un... Vendredi passé, j'ai réécouté Le loup-garou de Londres.
Oh yeah, un classique!
Un bon classique de l'horreur. C'est rare, les bons films de loup-garou.
Oui, c'est... Ben, y avait Le loup-garou de Limoilou, ça c'était bien bon, mais c'était une histoire radiophonique, ça.
Ouais, exact. C'est suite à ça, en fait, que je me redonnerais envie de réécouter Le loup-garou de Londres. Donc, on va s'en parler un petit peu tantôt. En fin d'émission, on va en reparler. Puis, on va parler aussi de la trame sonore de ce film-là, qui est quand même très... cool.
Ah oui, je me rappelle pas. Je me rappelle pas c'est qui avait fait ça.
Ouais, ben la trame sonore, en fait, c'est plusieurs artistes. Ben John Landis, le réalisateur du film. Puis au niveau de la trame sonore, c'est plein de pièces des années 60, 70, mais qui même 50, mais qui parlent toutes de lune, puis de pleine lune. Puis bref, il y a quelques petits morceaux cool là-dessus. Fait qu'on écoutera peut-être un petit extrait musical qui rappelle le film, mais on en parlera ensemble de ce fameux film-là sorti en 1981.
Yeah! Donc, je crois que nous allons débuter avec l'histoire, David.
On va y aller avec l'histoire de l'ami imaginaire, donc avec l'histoire d'Alexandre. Donc, j'y vais de ce pas. Cette histoire s'intitule « L'ami imaginaire ». Stéphane a 13 ans, il est en secondaire 2. Cette année est vraiment difficile pour Stéphane. Il vient encore de changer d'école puis il doit se refaire des nouveaux amis. Il est un peu grassouillet, un peu boutonneux, puis avec sa voix pas tout à fait muée, il est loin d'avoir la popularité du capitaine de football de l'école. Stéphane se sent très seul. Déjà qu'il n'y a personne à l'école, ses parents, quand ils arrivent le soir à la maison, sont toujours absents. Ce sont des bourreaux de travail. La solitude a toujours été un problème pour Stéphane. Fervent de trucs paranormaux et amateur de films d'horreur, il se créait son petit monde imaginaire. Le soir, il parlait comme s'il priait à celui qui l'entend. D'ailleurs, il récitait toujours ses prières en chuchotant assez fort pour être entendu au cas où son ami de l'autre monde, comme il s'amusait à l'appeler, soit près de lui et à écouter le contenu de son cœur. Un peu comme s'il s'adressait à un journal intime. Un certain soir, alors qu'il s'adressait justement à son ami imaginaire, il eut une idée. Il doutait toujours un peu que ses récitations ne soient entendues par qui que ce soit et il voulait en avoir le cœur net. À vrai dire, son père l'avait entendu lors de son rituel à travers la porte la semaine d'avant Il lui avait demandé s'il ne voulait pas rencontrer un professionnel pour discuter, juste pour avoir quelqu'un à qui parler. Ses parents étaient tous les deux athées et ils considéraient la prière comme les prémices d'une schizophrénie latente. Stéphane ne voulait pas se confier à qui que ce soit. On avait assez ri de lui comme ça. Il refusa poliment auprès de ses parents, essayant de les rassurer en disant qu'il faisait un test pour savoir si un Dieu existe. Bon, après tout, il devrait bien répondre un jour ou l'autre à cette question par lui-même. Laissons-le faire ses propres découvertes, conclurent ses parents. Un certain soir, alors que les parents de Stéphane étaient sortis au restaurant, il décida d'essayer de communiquer avec l'au-delà, quel qu'il soit. Il en avait assez de ne jamais avoir d'amis et il était déterminé à traverser les frontières du réel pour enfin avoir quelqu'un ou quelque chose de concret pour enfin parler de ce qui le tracasse et avoir des réponses aux grandes questions de la vie. Il avait vu plusieurs techniques pour parler à l'outre-tombe, mais celle qui lui paraissait le plus accessible semblait le jeu Ouija. Alors ce soir-là, il s'installa dans sa chambre avec tout le nécessaire qu'il avait concocté lui-même, avec du carton, des crayons, une simple petite pièce de plastique en forme de triangle. Il était fin prêt. Chandelle pour seule lumière, il prit son courage à deux mains et commença à s'adresser aux esprits. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je suis pas très à l'aise dans le monde des vivants et je veux m'adresser à quelqu'un qui voudra être mon ami. Ouija, es-tu là? Ouija, es-tu là? Il répéta sa réclame plusieurs fois, mais rien ne se passa. Au bout d'une trentaine de minutes, il commençait à perdre espoir, mais soudain, il entendit une sorte de soupir à ses oreilles.
Stéphane!
Oh, j'hallucine! C'est qui est là? Et soudain, la pièce de plastique partit à l'autre bout de la chambre et les chandelles s'éteignirent. Stéphane, pris de peur, alla se réfugier sous ses couvertures. Il faisait si froid, soudain. Près d'une heure plus tard, ses parents arrivèrent. Toujours terrifié, il alla à leur rencontre et leur raconta ce qu'il avait vécu. « Voyons, Stéphane, tu t'inventes des histoires. Lundi matin, tu vas aller discuter avec le psychologue de l'école. » Contrarié, il retourna se coucher avec un brin de frayeur dans le sang. Il tremblait dans son lit. Il vint toutefois près de s'endormir et entendit à nouveau une voix lui chuchoter près de l'oreille.
« Je suis ton ami. »
Suite à ces événements, Stéphane dut malheureusement avoir un suivi avec une série de médecins, car son nouvel ami lui parlait maintenant sans arrêt. Stéphane est chanceux. Il a maintenant tous les amis qu'il voulait. Depuis 2 ans, il a une chambre à l'Institut en santé mentale. Pauvre Stéphane, lui qui n'avait que la curiosité d'un jeune, empli de naïveté et d'espoir. La leçon de cette histoire, parfois mieux vaut être seul que très mal accompagné.
Donc, hey, merci beaucoup Alexandre, c'était une autre succulente histoire.
C'est à peu près les seuls amis qu'on a le droit d'avoir ces temps-ci, de façon des amis imaginaires, là. Fait que,
oui.
On vous donne des idées à fréquence du retombe. Allez vous chercher un jeu Ouija, il y en a plein sur Marketplace. Trouvez-vous des amis imaginaires et ils vous donneront pas de virus, eux autres.
Non, c'est ça, effectivement. Puis vous pouvez en caler autant que vous voulez chez vous. Il n'y a pas de restrictions. Puis merci, Alexandre. Une fois de plus, j'ai remarqué que tu avais mentionné Outre-tombe dans ton histoire. Tu t'es forcé, tu t'es donné la peine. J'ai remarqué ce clin d'œil.
Cool. Oui, merci Alex pour l'histoire, vraiment cool. Puis je ne sais pas si tu en as d'autres à nous écrire, c'est trippant, c'est vraiment cool.
Ainsi qu'à tous les autres auditeurs et auditrices qui voudraient nous en faire parvenir.
Absolument, absolument. Et peut-être avant d'aller à la prochaine histoire, Pat, pendant qu'on est là, pendant qu'on jase d'histoires effrayantes, t'as-tu regardé des films, toi, des séries dans la dernière semaine que tu aimerais partager avec l'auditoire?
Oui, c'est sûr qu'on a pas mal le temps d'en écouter ces temps-ci, hein, donc j'ai sur différentes plateformes. Malheureusement, le club vidéo Centre-Ville est fermé, fait que j'ai pas le choix de me rabattre sur les plateformes.
C'est tellement triste parce que
ouais.
c'est le temps là, d'aller justement louer des films, encourager un commerce local, puis s'enfermer à la maison, mais tabarouette, ils nous ont fermé le club vidéo.
Ben ouais, écoute, c'est un trésor de la cinématographie, donc là, on va se faire taper les doigts par CKRL, parce que on fait de la pub, mais bon, ça vaut la peine. Mais oui, sinon, sur j'ai vu la télésérie Lore, L-O-R-E, sur Amazon, qui relate des faits réels de personnages qui ont déjà existé dans le passé. On pense à Aleister Crowley, Elizabeth Bathory. Puis chaque épisode, c'est une histoire différente et franchement, c'est très bien tourné. Esthétiquement, c'est très riche esthétiquement. Les images sont très travaillées, très dark, comme je les aime. Ça vaut la peine d'aller écouter ça si vous ne l'avez pas déjà écouté. La saison 2 est sortie il y a quelques temps.
Ça s'appelle L'Ore, L-O-R-E. Ouais, okay,
L-O-R-E.
Cool. Tu nous suggères la saison 2?
Oui, je vous suggère la saison 2 et un petit peu plus étoffée que la première.
Ah, cool, c'est bon à savoir. Puis, c'est-tu tourné comme un documentaire ou c'est comme une histoire vraiment qu'on suit?
Oui, ben c'est comme une histoire. C'est tourné en fiction, en histoire, mais ça documente assez bien, ben du moins, pour qu'est-ce qu'on en sait, ce qui s'est passé dans le passé. C'est de fiction documentaire.
Ah, cool. Puis là, tu as parlé de Elizabeth Bathory, mettons.
Oui,
Elizabeth. C'est qui, elle, donc?
Elle, c'est une femme à l'époque qui était très complexée par le fait de vieillir. Et pour conserver sa jeunesse, ou du moins rajeunir même, elle s'emparait de vierges. Et puis, elle leur faisait toutes sortes de sévices dans le but de récolter leur sang. Et elle s'enduisait, se badigeonnait du sang de ces jeunes vierges. Vous comprenez que c'est une histoire, on ne veut pas offenser personne, là, mais ça s'est passé pour de vrai il y a 400 ans. Et donc, ça lui, pour elle, ça lui donnait, ça lui procurait le pouvoir de pouvoir conserver sa jeunesse. Et la madame a été assez meurtrière à l'époque. C'est plusieurs centaines de personnes, hein? 650. Elle a tué 650 jeunes demoiselles.
Terrible.
Une vraie grosse poffine.
Donc, la télésérie ou L'Or, qui peut être intéressante.
Oui, pour, historiquement et visuellement.
Oui, si vous aimez les histoires de fréquences d'outre-tombe, vous allez probablement aimer ce genre de récit, justement, un petit peu historique, quand même trippant.
Yeah!
Cool. Donc, Pat, sur les...
Oui.
Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on s'apprête à écouter?
Mais on s'apprête à écouter l'histoire de deux gars, c'est ça comme je disais, en entrée d'émission, qui anime une émission de radio à la radio communautaire de CKRL. Et ça va prendre des proportions inquiétantes. Donc, cette histoire s'intitule « L'histoire de fréquence d'outre-tombe ». Depuis un moment, les gens de Québec écoutaient de moins en moins la télévision. Étrangement, même les jeunes ne fréquentaient plus beaucoup Internet. Les réseaux sociaux perdaient en popularité pour une mystérieuse raison. C'était peut-être la longueur de la pandémie qui faisait en sorte que le monde se tannait d'être toujours branché après quelque chose, mais pourtant, un vieux média traditionnel faisait une réapparition, la radio. Que ce soit chez Best Buy, chez Radio Scrap, ou n'importe quel autre magasin d'électronique, on s'arrachait les quelques rares postes de radio FM qui restaient en magasin. Les particuliers qui en possédaient encore étaient pris d'assaut par les acheteurs sur Kijiji ou Marketplace. C'est que depuis un moment, une étrange émission de radio à la radio communautaire de CKRL faisait plus que sensation. Les sondages des codes d'écoute étaient implacables. Les choix Radio X de ce monde et même Radio-Canada pouvaient aller se coucher solide. Dès que sonnaient les 23 heures du lundi soir, aucune émission de radio n'arrivait à la cheville de l'émission de l'heure « Fréquence d'outre-tombe ». Une émission relatant des histoires morbides ainsi que des témoignages paranormaux. La direction de radio, peu habituée à ce genre de code d'écoute, avait du mal à gérer la situation tellement la popularité de cette étrange émission était arrivée rapidement. Tous avaient du mal à s'expliquer ce qui se passait et c'était difficile de rester rationnel. Une légende urbaine circulait même. Les animateurs de l'émission auraient procédé à un rituel occulte de magie noire dans le but d'hanter et d'hypnotiser la population. On racontait même que lorsque l'émission était écoutée par les ondes d'un vieux radio FM, l'expérience que procurait l'émission était plus intense et plus transcendante. La police eut même à intervenir à plusieurs reprises dans les magasins car des clients s'arrachaient les postes de radio. Quand l'émission commençait, un silence absolu se faisait attendre dans les logements. Quiconque osait faire du bruit ou parler déclenchait des chicanes qui frôlaient dangereusement l'hérésie. Dès que les animateurs prenaient parole sur les ondes et que leurs histoires macabres et envoûtantes débutaient, les yeux des citoyens de la ville devenaient ronds comme des pleines lunes. Tels des zombies possédés, ils cessaient toute activité, devenant sous le joug des mots qui sortaient de la bouche des animateurs de fréquence d'outre-tombe. Plus le temps passait, et plus on signalait des drôles d'événements. les autorités se rendaient compte que les citoyens répétaient les actions des histoires racontées à fréquence d'outre-tombe. Les rituels, les crimes, les éléments sordides des histoires se répétaient dans la population quelques jours après chaque épisode. C'en était assez. Le maire Régis Labeaume, en partenariat avec les services secrets de la police de Québec, décidèrent un soir de passer à l'acte. Ils communiquèrent avec la direction de CKRL, mais à leur grande stupeur, la direction leur annonça qu'ils avaient mis fin à l'émission Fréquence d'Outre-Tombe il y a de cela un bon moment, suite à la disparition des deux jeunes animateurs, David Rocketship et Patrick Anctil. Pourtant, l'émission continuait et chaque lundi soir, par le biais de mystérieuses ondes FM provenant de l'au-delà, les gens pouvaient entendre les histoires envoûtantes et énigmatiques. Depuis ce temps, aucune explication n'a pu expliquer le phénomène à part celle-ci. David Rocketship et Patrick Anctil sont décédés. Ils sont morts et disparus. Ce que vous entendez à la radio est le testament de leurs imaginaires diaboliques. Ce sont des fantômes qui manipulent les ondes FM et les esprits des citoyens en utilisant le pouvoir des ténèbres. Alors voilà, cher public dévoué, vos animateurs préférés sont morts et proviennent d'outre-tombe pour en révéler le contenu.
Pat, tu viens de révéler notre secret.
Ben oui, écoute, tu le savais-tu que t'étais mort, toi?
Ah, c'est ça! Ça expliquerait, Pat, pourquoi qu'à toutes les fois que je me regarde dans le miroir, je me trouve toujours un petit peu plus vert. Puis pourquoi qu'il me manque des petits bouts de temps en temps. Je pensais que c'était la pandémie qui faisait de l'effet.
Ouais, c'est rendu dur de se retrouver dans tout ça, mais oui, j'ai révélé notre secret. Je voulais que les auditeurs et auditrices sachent à qui ils avaient affaire, à quoi plutôt. Hein. Ils ont affaire à des entités... maléfique, diabolique, d'outre-tombe. Alors voilà, on vous entertaine depuis le début, sans corps physique.
De 6 pieds sous terre.
Voilà. Bien décomposé, bien putride.
Bien décomposé, bien putride. Ils disent qu'il faut garder 2 mètres, 6 pieds de distance.
Oui.
Hein? Ben, nous, on garde nos 6 pieds.
On garde nos 6 pieds, on garde nos 2 mètres. Oui.
À la verticale.
À la verticale, on fait pas les choses comme les autres, mais on garde le 2 mètres. Yeah!
Vous écoutez toujours Fréquence d'Outre-Tombe. Vous êtes sur CKRL 89.1. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Pat, j'ai envie de te parler d'un film que j'ai regardé justement le week-end dernier.
Oui.
Le Loup-garou de Londres. Quel bon film d'horreur.
Old school.
Old school. 1981, réalisé par John Landis, qui aura réalisé plusieurs genres de comédies d'ado. Lui, c'est drôle, son répertoire. Puis, quand on regarde Le Loup-garou de Londres, c'est effectivement, il y a effectivement un volet un petit peu... comédie d'ado, justement. On parle de 2 jeunes Américains. Bon, on peut déduire qu'ils sont dans le début de la vingtaine, qui s'en vont pendant 3 mois en Europe, en sac à dos. Puis, ben, leur voyage va malheureusement s'écourter parce que dès le début, ils sont dans le nord de l'Angleterre. Puis, ben, ils vont tomber face à face avec un loup-garou qui va mettre fin, malheureusement, ou en tout cas qui va changer la direction de leur voyage.
Puis, les effets spéciaux étaient assez particuliers à l'époque, hein, pour ce loup.
Oui, mais on est en 1981, donc on parle d'effets spéciaux.
Réels. Ce qu'on appréciait, nous.
On parle d'effets spéciaux, donc effectivement de
c'est ça. Pas de CGI.
Fabriqués à la main, là, donc des maquettes, des
les props, ouais,
tout ça. Ouais.
Tout ça.
Pas d'animation à l'ordinateur, puis des maquillages, tout ça. Puis une des scènes en particulier qui fait le charme de ce film-là, puis c'est une scène qui a marqué l'imaginaire des millions de personnes qui ont vu ça à l'époque, c'est la fameuse transformation.
Du loup, ouais.
Du loup-garou. Quand le gars se transforme en loup-garou, c'est incroyable. C'est incroyable, cette scène-là, comment c'est bien fait. Puis c'est tellement intelligent quand tu... Avec un peu de recul, aujourd'hui, on le regarde. Ils ont pas transformé un gars en loup-garou, on s'entend. Puis c'est pas une scène qui a été faite... où on voit le loup-garou des pieds à la tête. Mais quand tu le regardes, c'est tous des petits bouts. Mais tout monté ensemble, l'effet est parfait, tu sais, on s'en rend pas compte.
Il y avait énormément de travail, puis c'est sûr, faut retourner à l'époque, faut voir ça avec les yeux de l'époque. Tout le travail que ça occasionnait de monter des scènes comme ça, de fabriquer des effets spéciaux comme ça, maintenant avec le CGI, avec les effets par ordinateur, c'est complètement différent. Puis sans dénigrer ça, sans rien enlever à ça, je trouve vraiment que le travail dans ces films-là, à ces époques-là, c'était très virtueux.
C'est un travail artistique, puis le rendu est pas le même. Là. Le rendu est tellement, tellement réel,
oui,
justement.
C'est tangible, comme l'apocalypse, on y croit plus.
On y croit plus, exact. Puis je me rappelle, petite anecdote personnelle, ma grande sœur, qui est à peu près 2 ans plus vieille que moi, s'était fait garder quand j'étais vraiment jeune. Elle s'était fait garder chez mes grands-parents, puis elle avait écouté ça le vendredi soir à télé. Ça allait sûrement à TQS, là,
TQS?
À l'époque. À TQS, oui, à l'époque. Puis là, quand elle était revenue après ça, elle arrêtait pas de m'en parler. Hey, j'ai vu un film, c'était débile, ça s'appelait Le Loup-garou de Londres. Elle était vraiment peurant. Imaginez, elle avait 8-10 ans, moi j'étais un peu plus jeune, j'avais 5-7 ans. Puis là, elle me disait ça, elle dit là, quand il se transforme, c'est la scène qui l'avait marqué, la transformation du loup-garou. Puis moi, ça avait marqué mon imaginaire de petit gars parce que ça avait traumatisé ma grande sœur, tu sais.
La passion pour l'épouvante, ça commence souvent à l'enfance. Il y a des enfants que ça va terroriser et d'autres, comme nous, ça va les passionner.
Exactement. Donc, Le Loup-garou de Londres, si vous l'avez jamais vu, An American Werewolf in London, je vous suggère ça fortement. En tout cas, on en jasait un peu hors d'onde, Pat, mais les bons films de loup-garou sont vraiment rares.
Oui, ils sont assez rares, effectivement. Il y a quelques réalisateurs qui ont tenté certaines choses, comme Wes Craven, pour ne pas le nommer, au début des années 2000, mais ça n'a jamais eu... Ça n'a jamais eu l'ampleur.
Non, c'est ça, exact. Wes Craven, le réalisateur qui nous a donné, entre autres, ben, Freddy, puis Frisson. Là,
Frisson, mais aussi d'autres bonnes choses qui ont peut-être été un peu moins connues du grand public, mais The Serpent in the Rainbow, à la fin des années 80, bizarrement traduit par L'Emprise des Ténèbres. Mais c'était un film sur le vaudou, c'était absolument intéressant.
Avec Bill Pullman. Ça,
Bill Pullman,
autre.
Oui.
Il va en Haïti, je pense, en Haïti.
Oui, c'est en Haïti.
Ça, c'est un autre thème qui n'est pas beaucoup exploité dans le cinéma d'horreur, le vaudou, puis c'est tellement cool.
Oui, c'est ça. Puis à l'époque, je me rappelle, c'était d'après un peu une vraie histoire, si on veut. Là. Il expliquait ce que c'était la tétradotoxine, là, le fameux poison qui endormait tellement les gens qu'il n'y avait plus de signes vitaux. Les médecins croyaient qu'ils étaient morts, ils les enterraient. Finalement, une fois qu'ils étaient déterrés, parce qu'il y a une petite clochette qui sonnait, les gens voyaient des zombies partout, mais c'était... C'était l'œuvre du dit poison qui est relatée dans le film de Wes Craven.
Oui, exact. Donc, l'origine de la fameuse légende de zombie, ben c'était plus vrai qu'on pense.
Oui. Mais là, on jase. David, je pense qu'il faudrait écouter de la musique. Hein?
On écoute de la musique. Donc, je vous parle de... On parlait du Loup-garou de Londres. Donc, juste avant de fermer l'émission, on va écouter deux pièces qu'on peut retrouver dans ce film. La trame sonore du Loup-garou de Londres en soi est aussi magnifique. Donc, on va entendre, on va écouter deux pièces qui sont dans le film. On a Bad Moon Rising par CCR de Creedence Clearwater Revival, mais tout de suite une version tout à fait sublime de Blue Moon par The Marcells en doo-wop avec un peu de scat là-dedans. C'est vraiment cool. Bing, bing, bang, 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 bang.
Yeah, ça va très bien finir l'émission. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec.
À la semaine prochaine. Bomb 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 dang 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 ding dong ding blue moon moon blue moon dip 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 moon 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 blue moon dip 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 moon 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 blue moon dip 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 bomb 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 dang 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 ding dong blue moon you saw me standing alone without a dream in my heart. Dang it, dang, dang, ding it, dong, blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly. Bomb 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 dang 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 ding dong ding boom. Oh.
ba bom ba bom ba bom ba bom ba bom ba bom ba dang 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 ding dong ding boom 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 boom